Radio Kapi.
Bilivant Lukumba pour le journal.
Le processus de Nairobi s'est ouvert depuis ce matin dans la ville de Goma avec la rencontre du groupe technique de travail avec le facilitateur de ce processus, Uhuru Kenyatta. Nous revenons sur l'essentiel de cette réunion tout de suite en entame de ce journal. Processus électoral avec le dépôt des candidatures à la députation nationale. Nous vous amènerons ce soir à Lubumbashi où les bureaux de réception n'enregistrent presque pas de candidats. Les raisons, vous le suivrez dans ce journal avec un reportage de Jean Gandou. Comme invité de votre journal ce soir, c'est le colonel Makazukai, porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF dans le Nord Kivu. Son entretien à suivre porte sur l'intensification des opérations des tracts des ADF dans le territoire de Beni. Merci de continuer à vous informer toujours sur Radio Kapi. Amis à l'écoute, bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Le facilitateur Uhuru Kenyatta appelle tous les groupes armés, y compris le M23, à cesser les hostilités et à déposer les armes avant tout dialogue. Ceci afin de permettre aux habitants de vivre dans la paix dans ce pays plein de potentiel, a-t-il déclaré. L'ancien président du Kenya l'a affirmé ce mercredi à l'ouverture des travaux du groupe technique de travail dans le cadre du processus de Nairobi. Cependant, le gouverneur du Nord Kivu a souligné que la situation sécuritaire et humanitaire sur le terrain reste très complexe et préoccupante. D'après lui, la province attend beaucoup de cette deuxième réunion pour mettre fin à cette guerre inutile. Des précisions dans ce reportage de Sifa Maguru rendu par Grace Hamzati.
Il était question d'évaluer la mise en œuvre des décisions prises le 30 juin à Nairobi en rapport avec les débuts effectifs des opérations de cantonnement et de démobilisation des rebelles du M23. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas pu être réalisé? Voilà les discussions ce mercredi. Notez qu'en ce qui concerne les gouverneurs congolais, il lui a été demandé par exemple de disponibiliser et de viabiliser le site des Rumangabo prévu pour le précantonnement des rebelles du M23. L'Angola et le Soudan du Sud devraient à leur tour déployer des militaires sur les 10 sites du précantonnement. Avant une brève intervention par visioconférence du ministre congolais Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est le gouverneur, le lieutenant-général Constant Ndima qui a présenté la situation de manière succincte. Le gouverneur a appelé la facilitation à tout mettre en œuvre pour faire cesser cette guerre inutile selon ses propres termes. Alors que les FARDC continuent à observer les cessez-le-feu, les rebelles du M23 poursuivent les attaques, tuent et pillent les biens de la population.
Persistance de l'insécurité dans le territoire de Kwamout, près de 13 conducteurs des taxis-motos ont été pris en otage mardi soir par des miliciens Mobondo sur l'axe Kwamout-Massambio. 10 ont été relâchés. Quant aux 3 autres, ils sont portés disparus. Le président de la société civile locale qui livre cette information rapporte que ces miliciens occupent encore plusieurs villages dans cette partie de la province de Maïndombé. Plus de détails avec Irène Beaumont.
Selon la société civile du territoire de Kwamout, la situation sécuritaire reste préoccupante dans cette partie de la province du Maïndombé. La milice Mobondo continue d'opérer dans plusieurs villages en commettant des actes de barbarie, mettant ainsi à mal la quiétude de quelques paisibles citoyens vivant encore dans cette contrée. Après le déploiement hier mardi des militaires au village Mikanda Yakati pour les traquer, ces miliciens qui se sont retranchés sur l'axe Massambio-Kwamout ont sur leur passage pris en otage au moins 13 motards, rapporte le président de la société civile locale. Martin Souta donne des précisions sur ces otages.
Les militaires des FARDC sont allés surprendre les assaillants. Suite à cette attaque-là, ils se sont dispersés. Les uns sont sortis sur la route reliant Machambio Kwamutu et arrêté maintenant 13 motards avec leurs motos. Au finish, ils ont libéré 10 autres. Les 3 jusqu'à ce jour, traînent encore aux mains des assaillants vers le village Ntio.
Ce mercredi, la population de Kwamout était dans la rue pour dénoncer la persistance de l'insécurité et réclamer le retour de la paix dans cette entité. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
À Ituri, 156 000 personnes supplémentaires ont été affectées par des violences armées depuis le début de cette année dans le territoire de Djougou. Ces chiffres ont été publiés par Médecins Sans Frontières qui appuie une dizaine de structures médicales dans cette zone. Selon le chef des missions de cette organisation internationale, plusieurs personnes n'ont pas accès aux soins de qualité dans ce contexte d'insécurité qui limite les interventions humanitaires. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Dans une communication à la presse à Bounia, Médecins sans frontières exprime sa grande inquiétude devant la dégradation de la situation sécuritaire dans le territoire de Djougou depuis le début de cette année. Cela est dû aux attaques meurtrières des groupes armés avec comme conséquence des pertes en vies humaines et le déplacement de la population. Selon cette organisation internationale, plus de 156 000 nouveaux déplacés se sont ajoutés aux 1 700 000 recensés depuis 2017. 26 630 consultations médicales ont été menées par les équipes de MSF, notamment dans la zone de santé des Drodro sur 700 000 déplacés enregistrés sur toute l'étendue du territoire. Cependant, l'insécurité qui sévit dans cette entité constitue un frein à l'accès aux soins de santé, mais aussi aux aides humanitaires, indique le chef des missions des Médecins sans frontières, Frédéric Manantsoa.
Aujourd'hui, plusieurs structures médicales ne sont plus fonctionnelles. Nous, MSF, on est fortement inquiets de cette situation. À chaque attaque dans une zone ou à proximité, les patients et le personnel soignant fuient les structures. Tous ces conflits entraîne des besoins humanitaires plus grandissants.
C'est depuis 2019 que cette organisation médicale internationale appuie une dizaine de structures médicales, dont l'hôpital général de Drodro, proche d'un site qui abrite des milliers de déplacés. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Retour dans la province du Nord Kivu, où il est signalé plus de 100 civils tués dans différentes attaques attribuées aux rebelles des ADF dans le territoire de Beni depuis le début de cette année, précisément dans des localités des groupements de Batangimbaou et de Bambuka Kisiki. C'est la société civile des Rengeti qui donne ce bilan ce mercredi. C'est à la suite de la persistance des atrocités contre des civils dans cette partie du territoire. Parmi les agglomérations les plus touchées figurent Kingwe, Kanana ou encore Kikungu. La société civile des Rengeti plaide pour des opérations militaires d'envergure contre les rebelles des ADF. Cette structure citoyenne suggère aussi le renforcement des positions des FRDC afin de sécuriser les populations paysannes qui sont souvent la cible de ces rebelles dans leur champ. Bravo Mouindo Vukulu, membre de la société civile des Rengeti, lui dit au téléphone de Guylaine Kassassia.
C'est depuis Belirette que nous sommes en train de réclamer qu'il y ait élargissement des opérations conjointes FRDC-UPDF vers ces coins pour voir comment ils peuvent aussi aider à minimiser les attaques que ces rebelles sont en train de commettre sur la population. Nous voudrions parler très spécifiquement de la partie nord-est de Eringeti. Ce sont des milieux. Depuis le début de cette année-ci, nous venons de perdre une centaine des habitants qui sont en train d'être égorgés par des ADF. Et c'est depuis longtemps que nous sommes en train de réclamer qu'il y ait une position militaire dans ce point-là, puisque on ne peut pas aller perdre plus de 100 personnes dans un contrée où vous savez que il y a les chats des habitats. Parce que ces habitats qui ont des chats là-bas, ce sont les habitants qui ont fui la partie est vers Makembi, Chuchubo, Makoyoba. Et aujourd'hui, elles partent se chercher des chats dans la partie nord-est de Ringeti. Mais voilà, l'ennemi, il est en train de les poursuivre là-bas, même vers l'axe Maïmoya, Sambo, Kochani, Chani. Ce sont des passages obligatoires des ADF, surtout à Moulobia, à Baoba, à Kapoka, que nos forces armées, les commandant des opérations Axe Nord puisse voir comment il peut cartographier cette zone ici et voir comment il peut renforcer les positions militaires dans les contrées qu'on a dit.
Parlons à présent de cette altercation entre jeunes UDPS et UNAFEC à Lubumbashi. Le Centre international pour la promotion du développement des droits de l'homme, CIPEDO, déplore la mort des deux personnes survenues jeudi dernier à Kilobelobe dans la commune annexe de Lubumbashi. C'était lors des altercations entre les jeunes de l'UDPS et ceux de l'UNAFEC. Pour cette ONG de défense des droits de l'homme, ces jeunes ne sont pas à leur premier forfait et les troubles qu'ils occasionnent sont de nature à briser la cohésion sociale en cette période électorale. Jean Gandou pour les détails.
Le CPEDO demande à la police de mettre la main sur les commanditaires de ces actes qui ne favorisent pas la cohésion nationale. Pour la police, ces jeunes voulaient chacun hisser les drapeaux de son parti politique dans ses parkings pour s'adjuger les droits des perceptions illégales de taxes, ce qui a occasionné les troubles qui ont causé mort d'homme. D'après plusieurs sources, dans ce désordre, plusieurs biens de paisibles citoyens ont été vandalisés et des marchandises qui étaient dans les maisons des commerces de ce quartier étaient aussi emportées. La police met en garde tous les fauteurs des troubles et indique que les enquêtes judiciaires sont déjà ouvertes pour que leurs auteurs répondent devant la justice. Aux responsables des partis politiques concernés de veiller au respect des lois et règlements de la République et de sensibiliser leurs membres respectifs au civisme et à la culture de la paix. Pour le major Charles Bin Luamba, porte-parole de la police dans le Haut-Katanga,
le commissariat provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga demande à la population de collaborer avec les services de sécurité et de défense en vue de démanteler tous les inciviques qui sèment les désordres dans les parkings par la perception illégale des taxes tracasseries et autres exactions.
À noter que le maire de Lubumbashi a rappelé les uns et les autres à l'ordre et a interdit que les drapeaux des partis politiques soient hissés dans les différents parkings de la ville. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Processus électoral à présent dans ce journal. L'opération de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale se clôture le samedi 15 juillet prochain. À Lubumbashi, les partis et regroupements politiques ainsi que les indépendants traînent les pas, obligeant les agents de la CENI à se tourner les pouces. Interrogés, certaines formations politiques évoquent le manque de moyens et les difficultés à atteindre le seuil exigé par la CENI. Reportage de Jean Gando.
À quelques jours de la fin de l'opération, un seul dossier a été déposé par un candidat indépendant. Il y en a qui viennent juste pour avoir les informations et retirer les formulaires, rapporte le président du BRTC. Au sujet du manque d'engouement, plusieurs explications sont données. Pour le parti politique dénommé Coalition républicaine pour la démocratie et le fédéralisme, cette formation politique est membre d'un regroupement. Il fallait harmoniser les listes pour que les uns et les autres se retrouvent et éviter ainsi de frustration. En outre, le regroupement devait atteindre le seuil tel que exigé par la CENI, une tâche qui n'est pas du tout aisée. Toutefois, rapporte son président, les listes seront déposées avant la fin de l'opération. Ces explications sont partagées aussi par d'autres partis politiques logés à la même enseigne. Si à l'Alliance nationale des fédéralistes et kiongouistes, ANAFEC, son secrétaire général indique que les listes seront déposées dès ce jeudi, d'autres partis politiques rassurent qu'ils feront tout pour déposer les leurs au plus tard le dernier jour de l'opération. Confrontés au manque de moyens pour aligner les candidats selon le seuil exigé par la CENI, d'autres formations politiques désistent et disent se préparer pour la députation provinciale. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Voyons à présent comment cela se passe dans le Nord Kivu. Aucune candidature n'a encore été déposée au bureau de réception et de traitement des candidatures BRTC Goma et Nyiragongo à quelques jours seulement de la date limite de l'opération de dépôt des candidatures. Les présidents de ces deux bureaux l'ont fait savoir hier mardi à la presse. Selon eux, au total, 49 partis et regroupements politiques ainsi que des candidats indépendants ont tout simplement retiré les formulaires sans faire le dépôt de la liste de leurs candidats. Et pourtant, il ne reste que 3 jours pour clôturer cette opération. Bernadine Diambou a visité ces bureaux. Elle nous décrit la situation.
Il était 11h locale hier mardi lorsque nous sommes arrivés devant le bureau de la CENI Nord Kivu. À l'extérieur de la CENI, aucun engouement. Arrivé à l'intérieur du bureau, nous avons trouvé que les deux présidents du BRTC, chacun dans son local, ainsi que leurs membres, dont les juristes. Ils n'ont aucun dossier à traiter, ont-ils déclaré. Le président du BRTC Goma, Mathieu Ruchogoza, qui n'a pas voulu s'exprimer à notre micro, dit toutefois avoir réceptionné 10 partis politiques, 13 regroupements politiques ainsi que 6 indépendants pour retirer les formulaires. Mais jusqu'à ces jours, ils ne sont plus revenus pour faire les dépôts des dossiers de leur candidature à la députation nationale. Même son de cloche au BRTC Nyiragongo. Le président dit avoir remis les formulaires à 14 partis et regroupements politiques. Et donc, à 4 jours seulement de la clôture de cette opération, aucune candidature n'est encore déposée au BRTC Goma et Nyiragongo. Tout en déplorant ces retards, ces deux responsables pensent qu'il serait mieux pour les partis ou regroupements politiques de déposer les dossiers de leurs candidats à la CENI avant la date limite pour éviter certaines inconvénients de dernière minute. Il faut noter que cette opération qui a débuté le 26 juin dernier va se clôturer le 15 juillet. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Actualité dans la province du Kasaï oriental, la société minière de Bakwangamiba a désormais une nouvelle équipe dirigeante. Cette équipe est composée de 3 personnalités. Il s'agit de Jean-Charles Okoto, PCA, du directeur général André Kabanda et de son adjoint Kazadi Mabika. L'ordonnance portant nomination des nouveaux mandataires des entreprises publiques a été publiée le week-end dernier. Quels sont les défis à relever par la nouvelle équipe dirigeante de la société minière de Bakwangamiba? Des explications avec Esther Ndalafina.
D'après plusieurs sources, les défis à relever sont énormes car la société minière de Bakwanga traverse une période de vaches maigres. Le défi majeur consiste à l'achat de l'outil de production suivi de la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Tchala qui fournit 2,5 MW de l'énergie électrique au polygone minier de l'Amiba. Depuis sa création en 1961 jusqu'en 2000, l'Amiba produisait en moyenne plus de 6 millions de carats de diamants par an. Actuellement, l'entreprise n'est plus en mesure de produire produire même 100 carats de diamants par jour. La nouvelle équipe doit aussi étudier les mécanismes pour rendre la paye mensuelle régulière, car les agents et travailleurs de la MIBA comptent plus de 100 mois d'impayement. Certains agents contactés souhaitent que l'enveloppe définie dans le plan de relance de l'entreprise minière soit gérée telle que répartie au cours de l'atelier de restitution et de validation. La nouvelle équipe doit encore faire face à la spoliation en sécurisant le polygone minier qui est le cœur de l'entreprise et autres périmètres non encore exploités. D'autres agents souhaitent que cette nouvelle équipe s'attelle à améliorer les soins de santé de tous les personnels et leur offre les moyens de transport efficaces. Esther Ndalafina Mboujimaï, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les présidents iraniens Ebrahim Raisi et kenyan William Ruto se sont engagés à renforcer les liens entre leurs deux pays mercredi à Nairobi, première étape d'une tournée africaine inédite du dirigeant iranien. Alors que Téhéran cherche de nouveaux alliés pour contourner les sanctions américaines, William Ruto a décrit l'Iran comme étant un partenaire stratégique essentiel du Kenya. Lors de la conférence de presse, Ruto a déclaré qu'ils ont signé 5 protocoles d'accord de coopération dans les domaines de l'information, de la communication, des technologies, de la pêche, de la santé animale et des produits de l'élevage, ainsi que des mesures en faveur des investissements. Une fusillade en Afrique du Sud a fait 6 morts et 4 blessés lorsque 3 hommes sont entrés dans la cour d'une maison et ont ouvert le feu, a ainsi annoncé la police mercredi. La fusillade s'est produite mardi soir dans le township de Kwanobule, près de la ville de Kariega, dans la province du Cap-Oriental. Les suspects n'ont pas été arrêtés et des recherches sont en cours, a indiqué la police.
L'invité.
La force conjointe des armées congolaises et ougandaises a intensifié depuis près d'un mois des opérations de traque des ADF dans le territoire de Beni. C'est après l'attaque par les rebelles de la commune rurale de Kassindi Lubiria et d'une école dans la ville ougandaise de Pondé. Quel bilan, ami Parcou, peut-on faire de ces opérations? Pour en parler, nous recevons le porte-parole des opérations conjointes FARDC UPDF, le colonel Makazukai, qui répond aux questions de Martial Papimoukeba.
Colonel Mac Azukai, bonjour.
Bonjour.
Un peu plus d'un mois après les lancements des opérations de poursuite des ADF après l'attaque des Kassindi et des Kassessi, quel bilan peut-on en tirer?
Ce qu'il faut retenir, c'est que les forces conjointes sont en pleine opération dans la zone où l'ennemi s'était retranché. Si nous pouvons faire rapidement le calcul, donc il y a déjà une dizaine de terroristes, dont 2 grands leaders, ceux qui travaillent vraiment avec les chefs Amigo dans la vallée de Mwalika. Je cite rapidement Abdou Masirika et Lukanga Kane. En dehors de ce leader-là, nous avons neutralisé une dizaine, comme je l'ai dit. Aussi, on a libéré de femmes et des enfants, sans oublier les ADF qu'on a capturés. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit vous dire, c'est que on assiste à une intensification des opérations d'une manière soutenue pour essayer de traquer le groupe qui avait commis ce massacre au niveau de Bondo.
Il y a une certaine opinion qui pense que la traque de ces rebelles s'est intensifiée avec l'implication de l'armée ougandaise. Jusque-là, les FARDC s'est contenté de neutraliser que les seconds couteaux. Mais avec les Ougandais, il y a des chefs ADF qui sont tués. Que répondez-vous à cette accusation? Car en réalité, ceux-là pensent que les Ougandais sont plus engagés dans ces opérations que les FARDC.
Je pense franchement que c'est une polémique inutile, entretenue par des personnes qui ne veulent pas que la guerre prenne fin. Nous travaillons ensemble. Ce sont des opérations conjointes qui sont menées, que ce soit sur le territoire de Beni et aussi du sud du territoire de Rum. Donc, les gens doivent savoir qu'il n'y a pas une compétition entre les unités qui sont engagées dans cette forêt. La population attend de nous un résultat. La population attend qu'on mette fin à la guerre. Donc, dire qu'il y a tel qui travaille mieux que l'autre, c'est une polémique inutile. Nous travaillons ensemble dans la partie est de la nationale numéro 4. Les FARDC opèrent avec l'UPDF conjointement. Donc, il n'y a pas un résultat qu'on doit coller au FARDC et un autre à l'UPDF.
Mais sur terrain, surtout dans la région des Beni, on voit un engagement plus poussé des l'UPDF.
Nous travaillons ensemble. Nous sommes toujours ensemble. Et le bilan qu'on donne, c'est le bilan de 2 forces qui sont engagées conjointes dans les opérations.
Et quelle est la suite de ces opérations?
Les opérations se poursuivent sans désemparer. La preuve en est que chaque jour, nous publions des bilans. Pas plus tard qu'hier, nous avons publié le bilan de la semaine passée. Donc, ça prouve que nous sommes en train de travailler et beaucoup de choses se font chaque jour. Donc, il n'y a pas un petit retard dans les opérations ou bien une négligence. Nous sommes en train de travailler et ce travail se fait conjointement.
Vendredi dernier, ici à Béni, une réunion a eu lieu entre la coordination des opérations conjointes FRDC-UPDF, le commandement des opérations Sokola 1 et le commandant adjoint de la force de la MONUSCO. Peut-on savoir ce qu'il s'est dit au cours de cette réunion?
Les trois forces travaillent dans la zone pour combattre l'ennemi qui nous est commun. Donc il était quand même nécessaire qu'on puisse se rencontrer et échanger certains points de vue. C'était important qu'on puisse se parler pour éviter, par exemple, des tirs fratricides. Mais il y a une chose que l'opinion doit aussi retenir, c'est que pour l'instant, il n'y a pas un cadre juridique qui lie la MONUSCO à travers la FIB avec l'UPDF directement. Donc les choses se passent pour l'instant entre les FRDC et l'UPDF, et puis les FRDC et la MONUSCO d'autre part.
Colonel Makazukai, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Et voilà qui met un terme à cette édition de journal sur Radio Okapi. Fidèles auditeurs, nous vous disons merci de l'avoir suivi.